Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, leader du transfert d'argent et du paiement de factures via mobile. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Bienvenue, merci d'être avec nous. L'antenne vous appartient. Dans un instant, ce sont vos questions à la rédaction. C'est votre rendez-vous privilégié avec les journalistes des RFI, nos experts ici à Paris, nos envoyés spéciaux, nos correspondants à travers le monde. Le principe, vous le connaissez. Vous souhaitez un complément d'information pour mieux comprendre les sujets que nous traitons dans les différents journaux. Eh bien, vous nous appelez et n'attendez pas le début de l'émission pour nous contacter. Vous pouvez le faire tout au long de la journée. Le standard est ouvert. 33 9 693 693 70. Vous nous envoyez vos questions également par courriel. Et oui, le courriel existe encore. Appel au pluriel .actu@rfi.fr. Sinon, vous nous rejoignez sur la page Facebook de l'émission, la page officielle Appel sur l'actualité. Sans oublier de nous indiquer un numéro de téléphone afin de vous avoir en direct dans l'émission. Dans 30 minutes, et vous êtes déjà nombreux à réagir aux 100 jours du président Kaboré au Burkina Faso. 100 jours, c'est un cap symbolique pour tout président de la République. Roch-Marc Christian Kaboré, premier civil à accéder démocratiquement au pouvoir depuis l'indépendance du Burkina, c'était en 1960. Autant dire que son élection a suscité un immense espoir. Et parmi les priorités des Burkinabés, on peut citer la stabilisation de la démocratie, la lutte contre l'impunité, contre la pauvreté ou encore contre le chômage des jeunes. Les moins de 30 ans représentent 70% de la population. Priorité numéro 1, peut-être la jeunesse au Burkina. En tout cas, nous allons ensemble dresser un bilan, un premier bilan de ces trois premiers mois de la présidence. Constatez-vous la rupture promise par Roch-Marc Christian Kaboré? Vos témoignages évidemment au 33 9 693 693 70. Allez, nous passons au standard avec vos questions. On va s'intéresser à la capacité de nuisance nucléaire de la Corée du Nord. Bonjour Gaëtan.
Bonjour.
Vous êtes au Gabon, à Libreville. On vous écoute.
Et bonjour à tous les auditeurs de RFI. La Corée du Nord a diffusé une vidéo simulant une attaque nucléaire contre Washington. Ma question est la suivante. La Corée du Nord a-t-elle réellement les moyens d'une telle attaque contre les États-Unis?
Alors, Stéphane Lagarde, journaliste au service international des RFI, est à mes côtés. Bonjour Stéphane.
Bonjour Juan, bonjour Gaëtan.
Alors, c'est vrai que pas une semaine ne passe sans que la Corée du Nord menace les États-Unis, mais aussi le voisin sud-coréen de frappe nucléaire ou de frappe conventionnelle. Il a été question de la menace atomique de la Corée du Nord il y a quelques jours à Washington autour de Barack Obama, à l'occasion du sommet sur la sécurité nucléaire. Et effectivement, Gaëtan nous le rappelait à l'instant, récemment, Pyongyang a diffusé une vidéo. Alors, c'est évidemment une vidéo de propagande, mais une vidéo qui montre une attaque nucléaire sur Washington.
Voilà, alors Gaëtan, il faut pas confondre la représentation et son objet. Ce qui est la chose qui est filmée, qui est montrée, c'est même une animation. Et ce qui se passerait si effectivement ils avaient les moyens d'envoyer une tête nucléaire sur Washington. Il y a une nouvelle vidéo qui vient de tomber. Gaëtan, c'est vraiment d'actualité votre question, puisque là tout de suite, ce matin, une vidéo de la Corée du Nord montre des attaques à la roquette, cette fois contre Séoul, contre le voisin. Un déluge de feu. C'est souvent dans la rhétorique de Pyongyang, un déluge de feu qui s'abat sur la Corée du Sud voisine. Toujours pareil. Il s'agit d'une vidéo. On voit Changwade, donc c'est des images à la fois des images de photos et puis des montages vidéo. On voit Changwade, donc c'est la Maison Bleue, le palais présidentiel sud-coréen qui est bombardé comme ça à côté de la montagne, qui est bombardé et qui disparaît. Alors ces vidéos, c'est pas nouveau, Gaëtan. On en a déjà eu en 2013. Depuis 2013, la Corée du Nord s'est sophistiquée dans ce genre de choses et elle a plusieurs sites pour les diffuser, dont DPRK Today, donc la Corée du Nord aujourd'hui. C'est le site encore aujourd'hui qui a été utilisé pour envoyer cette vidéo de tir à la roquette, mais aussi celle contre la Maison Blanche la dernière fois. Alors à chaque fois, c'est un truc qui est un peu kitsch pour les Occidentaux. Il y a des internautes parfois qui attendent ça. Alors c'est quand même incroyable parce qu'on parle d'une chose tragique, mais enfin, et qui commentent, qui disent finalement, ils sont pas très doués à la palette graphique, c'est nord-coréen. Effectivement, c'est dans le style de la Corée du Nord, c'est-à-dire qu'on a souvent de la grosse musique, voire du violon électrique, comme le Morabong.
De la musique
par exemple,
classique parfois,
les groupes, oui, mais enfin, électrisé. Voilà. Et puis, ça monte crescendo. Généralement, c'est un peu comme les parades. Tous les ans, on a des parades sur la grande place Kim Il-sung à Pyongyang. On voit l'étalage de tout l'armement nord-coréen. Et là, on voit donc, ça commence par les roquettes, les missiles. Et puis après, un sous-marin nucléaire. Donc, dans cette vidéo, effectivement, Gaëtan, vous avez raison, un sous-marin nucléaire qui tire un missile nucléaire et qui va donc sur le Capitole, sur le Congrès en tout cas. aux États-Unis.
Et la vidéo se termine avec le drapeau américain qui est en flamme. Concrètement, est-ce que Pyongyang a vraiment les moyens de passer à l'acte aujourd'hui?
Alors, il y a deux choses là-dedans, effectivement. Donc, la représentation et son objet, il y a une volonté de faire peur, ça c'est sûr, et de continuer cette rhétorique belliqueuse, parce que la Corée du Nord aujourd'hui essaye de négocier et n'y arrive pas. Après ses essais nucléaires et puis ses tests balistiques, eh bien, la communauté internationale a renforcé son embargo, y compris la Chine, y compris l'allié chinois. Par exemple, là, sur les tirs de roquettes, je vois, il y a une nouvelle dépêche aussi de Yonhap, donc l'agence sud-coréenne, qui dit que les 3 missiles anti-aériens qui étaient tirés par la Corée du Nord, ça c'est des vrais missiles, eh ben, finalement ils ont échoué, ils sont tombés dans la mer. Donc il y a une différence entre ce qui est filmé en vidéo, ce qui est montré en vidéo, et puis ce qui peut arriver. On sait que pour arriver à envoyer une arme nucléaire quelque part, il faut d'abord l'arme nucléaire. Donc ça, a priori, on sait qu'ils en sont en chemin. Le dernier essai en janvier dernier a montré que la Corée du Nord était capable de fabriquer une arme nucléaire.
Alors, et c'était d'ailleurs le 4e essai nucléaire de la Corée du Nord.
Donc on est sûrement pas à la bombe H, mais enfin, on est en tout cas en chemin. Et aujourd'hui, plus personne, plus aucun expert. Il y a encore 5 ans, les experts disaient hey, chiche, mais ils sont pas capables. Ils y arriveront pas. Ils y arrivent pas technologiquement. Aujourd'hui, tout le monde a peur parce que effectivement, ils sont capables. Et puis après, il y a l'histoire balistique, transporter le médium. Comment on emmène cette bombe comment on transporte la bombe? Alors là, il y a des essais balistiques qui sont faits, des essais de fusées, des essais de satellites, dit la Corée du Nord. Mais en tout cas, ça permet d'envoyer des missiles et voir si on peut transporter une tête nucléaire miniaturisée. Et ça, pour l'instant, on n'a pas encore de preuves. Mais enfin, ils travaillent dessus.
Alors, on me dit que Gaëtan a encore une question à nous poser. Gaëtan.
Oui, ma seconde question, quels sont les scénarios envisageables en cas d'attaque nucléaire nord-coréenne contre les États-Unis?
Alors, on en est encore loin, évidemment, Stéphane Lagarde, mais j'imagine qu'il y a déjà des scénarios qui sont élaborés, notamment à la Maison-Blanche, notamment, évidemment, chez les voisins sud-coréens, en cas d'attaque.
Oui, alors évidemment, déjà, la Maison-Blanche et les Sud-Coréens ont préparé un système antimissile, ou en tout cas voudraient le faire, ça c'est un peu en ce moment en négociation, mais en tout cas, on a vu, il y a eu des réunions à la fois avec la Chine et avec la Corée du Sud aux États-Unis pour déployer des systèmes antimissiles. La Chine n'est pas d'accord, mais pour l'instant, la Corée du Sud semble vouloir installer un système antimissile pour contrer ces tirs de roquettes, comme là, d'ailleurs, le Japon. Le Japon l'a installé et peut aujourd'hui contrer les tirs de roquettes, en tout cas essayer. Il y a une différence aussi, je vous disais, entre la chose qui est représentée en film et ce qui est vraiment ce qui peut arriver. Il faut aussi voir l'intention de la Corée du Nord. Moi, je crois pas, personnellement, à titre personnel, j'étudie beaucoup ce pays, je crois pas que les dirigeants nord-coréens soient complètement fous, et je pense pas qu'ils veuillent vraiment, j'espère en tout cas, attaquer les États-Unis avec une tête nucléaire, parce que, évidemment, si cela arrivait, immédiatement, ce serait la destruction de la Corée du Nord. Il n'y aurait plus de Corée du Nord, parce qu'évidemment, les États-Unis et ses alliés riposteraient immédiatement à une attaque nucléaire. Donc on imagine mal les Nord-Coréens faire ça, là encore, entre le discours, entre les vidéos et ce qui va se faire, on espère qu'ils ne vont pas aller jusque-là.
Le régime nord-coréen s'en sert surtout pour
négocier
sa survie sur la scène internationale. On a déjà eu l'occasion à plusieurs reprises d'en parler. Stéphane Lagarde, merci.
Merci à vous.
À bientôt, j'espère, dans cette émission. Gaëtan, bonne journée à Libreville. Il est 10h18 à Paris. Vous nous appelez, vos questions, 33 9 693 693 70. Une question sur la piraterie maritime au large de la Somalie. Là, ici, bonjour.
Bonjour Juan Gomez, bonjour à tous les auditeurs et auditrices de la RFI.
Merci de votre fidélité. Vous êtes au Bénin, on vous écoute.
Exactement. Ces pirates somaliens sont en train d'être jugés à Paris. Je voudrais savoir comment expliquer qu'il y ait moins de piraterie qu'on en parlait avant.
Alors c'est vrai que depuis la semaine dernière, 7 Somaliens sont jugés pour avoir attaqué en 2011 le bateau d'un couple de plaisanciers français et tué l'un d'entre eux, en l'occurrence l'époux. Les faits se sont déroulés au large de la Somalie. Hugues Eudeline est avec nous, bonjour.
Oui, bonjour monsieur.
Vous êtes ancien officier de marine, spécialiste des questions de sécurité, de la violence maritime principalement. On vous doit notamment cet ouvrage, Le dossier noir du terrorisme, la guerre moderne, selon Sun Tzu. La Somalie est toujours en guerre, elle est toujours ravagée par des combats. Mais une chose est sûre, comme le rappelait à l'instant notre auditeur, c'est que la piraterie maritime est en nette diminution. Comment peut-on l'expliquer ?
Eh bien, écoutez, il y a, en fait, c'est la conjonction de plusieurs actions qui fait que la piraterie a beaucoup baissé et qu'elle est même quasiment morte pour le moment, ce qui ne veut pas dire qu'elle ne renaîtra pas, d'ailleurs. Simplement, cette piraterie qui avait commencé en 2007 a cru très fortement Et finalement, c'est l'intervention de forces navales de nombreux pays, je dirais même de quasiment tous les pays de la planète, puisque même les Chinois sont venus intervenir, c'est la première fois qu'ils intervenaient aussi loin, et les Russes également, donc les Chinois et les Russes en 2008.
Il y a surtout les Européens, avec cette fameuse opération Atalante. Il y a effectivement les pays que vous citiez, mais l'Europe est fortement présente sur place.
Absolument. Donc l'Europe était présente dès le départ, hein, à partir de 2007. Je ne sais pas si vous m'entendez toujours bien.
On vous entend, effectivement.
Très bien, parfait. Donc simplement, les nations européennes ont été là très rapidement. Il y a eu un accord avec le gouvernement somalien qui ne représentait à l'époque pas grand-chose, mais qui au moins était un gouvernement légal et qui a autorisé une intervention jusqu'à la côte. On se souvient des otages qui avaient été pris, des otages français qui avaient été pris sur un bateau de croisière. Bon, donc finalement, qu'est-ce qu'il y a eu? Les raisons qui font que ça a beaucoup baissé, c'est cette intervention de bâtiments de guerre, mais il en fallait énormément parce que la zone est immense, hein, la zone qui était concernée par, qui est patrouillée par l'opération Atalante, ça a la superficie de l'Europe. Ouais. Donc c'est absolu, c'est très grand. Il fallait des bateaux portant des hélicoptères pour pouvoir agir rapidement, envoyer un hélicoptère. Il n'est pas question de couler le bateau, évidemment. Il est question d'intervenir avant qu'il y ait des prises d'otages. Et puis, une autre raison qui fait que ça a baissé très rapidement, ça a été l'autorisation d'embarquer des gardes armés sur ces bateaux. Donc des sortes, ce ne sont pas des mercenaires, hein, mais des gardes armés qui sont sur les bateaux et qui avaient l'autorisation de tirer sur les pirates en cas d'attaque.
Oui, puisque les pirates, rappelons-le, disposaient d'armements extrêmement lourds, comme des lance-roquettes, des kalachnikovs, donc il fallait effectivement en face les moyens nécessaires pour contrer ces attaques. On en a recensé pratiquement 200 en 2011 et aucune l'année dernière.
Oui, alors il y en a eu quelques-unes l'année dernière, mais qui ont été très faibles et qui n'attaquaient pas, qui ne concernaient pas, pardon, le trafic international. Ouais. C'était des attaques de boutres, des attaques de pêcheurs, je dirais, des rives de l'océan Indien. Et donc de ce côté-là, souvent les autorités ne sont pas tout à fait au courant et elles ne sont pas très bien comptabilisé.
Alors, ce qui est intéressant dans ce que vous disiez, Hugues Deligne, c'est que la piraterie est contenue, mais vous posez une question, jusqu'à quand? Et c'est une très bonne question. On sait que l'opération Atalante, qui coûte 300 millions d'euros par an à l'Union européenne, ne va pas durer indéfiniment.
Non, elle ne va pas durer indéfiniment, à ceci près tout de même que dans la zone, il y a aussi beaucoup de terrorisme. Et donc, il y a une très forte action des alliés, je dirais, en l'occurrence, les Américains, les Australiens, les Français, enfin, les Anglais, pour contrer ce terrorisme qui, sur mer, est essentiellement représenté soit par le transfert de personnel, hein, soit par le transfert d'armes, puisque tout à fait récemment, on a encore une frégate française, la Provence, là, qui a raisonné un bateau et qui a trouvé énormément d'armes, plusieurs milliers d'armes à bord.
Ouais. Là, ici, on a répondu à votre question.
Oui, Juan Gomez, ça s'est très bien passé.
Bon, bah écoutez, merci de nous écouter au Bénin et merci à Hugues Deligne, spécialiste de la violence maritime, d'avoir été avec nous. N'oubliez pas, dans un quart d'heure maintenant, les 100 jours du président burkinabé, Roch Marc Christian Kabore. La rupture promise tout au long de la campagne électorale est-elle au rendez-vous? Quelles sont les actions fortes qui vous ont marqué durant les 3 premiers mois de sa présidence? Nous continuons évidemment à vous attendre au standard 33 9 693 693 70. Autre question ce matin au standard, Balker, bonjour.
Bonjour Anne, bonjour à tous les auditeurs de la Radio du Monde.
Vous êtes à
merci
qui
merci de m'accorder la parole pour les antennes des réseaux.
C'est normal, vous nous appelez, on vous donne la parole. Vous avez des questions, vous, sur la protection animale dans les abattoirs en France?
Et images dans lesquelles il dénonce, je cite, le traitement cruel et violent réservé aux animaux dans les abattoirs publics français. Et Juan, j'ai trois questions. Voici la première. Juan, par rapport à cette situation des animaux, à qui reviennent le contrôle d'abord des abattoirs publics? Et la deuxième, de la réglementation en France et en Europe dans la matière.
Oui.
Et enfin, qu'est risque ces auteurs de ces actes violents et cruels.
Alors, le réseau téléphone n'est pas très très bon, mais on a compris l'essentiel de votre question. C'est vrai que cette vidéo publiée, diffusée la semaine dernière, a relancé le débat sur les abattoirs en France. Brigitte Gauthier est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la porte-parole et la cofondatrice de l'association L214, qui est l'association de défense des animaux, qui a publié donc ces images montrant les mauvais traitements infligés aux animaux dans un abattoir du Pays Basque français. Alors, L214, ça peut sembler un peu curieux, bizarre pour les auditeurs comme nom d'association. C'est un article du Code rural qui désigne les animaux comme étant des êtres sensibles. Un mot d'abord sur ces images. Tous nos auditeurs n'ont peut-être pas eu l'occasion de les voir, on voit des pratiques de mise à mort cruelles.
Oui, enfin, on pourrait regarder dans n'importe quel abattoir, qu'il soit en infraction avec la réglementation ou pas, les images paraissent toujours et sont toujours, pour les animaux, absolument cruelles. Mais là, effectivement, il y a en plus des infractions à la réglementation qui sont manifestes et qui augmentent encore la souffrance des animaux au moment de la mise à mort.
Alors concrètement, que dit la réglementation française ?
Donc la réglementation française, elle est en fait c'est des textes de loi qui sont européens et renforcés par les textes français, mais globalement on est sous une réglementation européenne, le règlement 1099-2009 qui a été voté par le Conseil en septembre 2009 et donc il y a des règles protection. Alors ça peut paraître un peu paradoxal de parler de protection des animaux au moment de la mise à mort, mais en tout cas qui limite les actions qu'on peut faire sur les animaux, qui essayent de limiter la souffrance des animaux, tout en reconnaissant qu'ils ne pourront pas supprimer la souffrance des animaux au moment de la mise à mort, mais au moins essayer de faire au moins pire.
Ouais, donnez-nous un exemple, Brigitte Gauthier, parce qu'on a du mal en tant que consommateur à faire la différence entre une agonie normale et ce qui relève finalement de la maltraitance.
Exactement, c'est très difficile. Donc aujourd'hui, la réglementation impose des procédés d'étourdissement. Et les procédés d'étourdissement, alors dans la vidéo de Moléon, on voit par exemple les pinces à électronarcose qui délivrent une décharge électrique censée étourdir les agneaux, par exemple. Et de l'autre côté, on a pour les veaux le pistolet à tige perforante qui est un projectile qui est envoyé, qui défonce le crâne et qui détruit une partie du cerveau, pareil, de façon à rendre les veaux et les bovins adultes inconscients. Ces deux procédés, là, ne sont pas utilisés de façon réglementaire, c'est-à-dire que sur la pince à électronarcose, on voit qu'un certain nombre d'animaux n'ont pas la tête enserrée dans le processus, mais c'est le corps, par exemple, donc ils ne sont pas étourdis, où on voit que même ceux qui passent dedans, souvent, sont mal étourdis et se réveillent au moment de la saignée.
Alors, c'est vrai que ces images sont choquantes. On voit d'ailleurs également même certains membres du personnel de cet abattoir, avoir des gestes de violence gratuites à l'encontre des animaux. Balcar nous demandait ce que risquaient les auteurs de ces actes de violence.
Alors déjà, ces violences faites par les employés, puis même le matériel qui est défectueux ou les gestes qui sont pas bons, auraient dû être détectés par les services vétérinaires qui sont présents en permanence sur place, hein, puisqu'ils posaient aussi la question des contrôles. Il y a des services vétérinaires qui sont présents en permanence, plus la direction de l'abattoir. Enfin, normalement, ça aurait dû être détecté, ça n'a pas été fait. Et maintenant, qu'est-ce qui risque ? On ne sait pas exactement, puisque c'est un petit peu une première. Là, c'est le troisième abattoir qu'on montre dans la série, là, en quelques mois, mais on en avait montré auparavant, les affaires avaient été classées sans suite par la justice.
Ah, d'accord. Donc là, vous avez porté plainte, le procureur a ouvert une enquête, l'abattoir a été fermé à titre conservatoire, le ministre de l'Agriculture lui a dénoncé évidemment ces pratiques, il a même annoncé que un représentant de la protection animale sera désormais présent dans chaque abattoir, on en compte 263 pour être précis, en France. Brigitte Gauthier, merci d'avoir été avec nous, je rappelle que vous êtes la cofondatrice de l'association L214 qui a donc publié ces images choquantes la semaine dernière sur cet abattoir dans le Pays Basque français. D'autres questions à la rédaction demain. On avait prévu de prendre d'autres auditeurs, mais surtout, ne vous inquiétez pas, on vous rappellera demain. Et on prendra d'ailleurs demain des questions sur les Panama Papers, cette enquête qui a mobilisé des centaines de journalistes à travers le monde sur les paradis fiscaux. Restez avec nous à suivre le journal et on revient dans 10 minutes. On parlera de la présidence Roch-Marc Christian Caboret.
Priorité santé. Claire et